l'Église. Et ce matin, le message que je veux apporter, c'est membre de l'Église. Parce qu'il y a une grande importance de prendre la part d'être membre de l'Église. Et Luc m'a mentionné, avant d'aller dans le message, Luc m'a mentionné qu'il vous a distribué le petit livre que j'avais apporté, le plan financier de Dieu. Et le but, c'est de le lire et de le saisir. Parce que les bénédictions sont à travers ce que Dieu a comme plan. Parce que Dieu veut qu'on lise les choses des Écritures, mais qu'on les pratique. Parce que il y a bien des gens qui lisent les Écritures, mais s'ils ne les pratiquent pas, ça ne leur porte pas les fruits que ça devrait, ou ça ne leur rapporte pas un intérêt pour leur part, pour leur vie, et pour la bénédiction qu'ils devraient recevoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la Bible, mais elle dort dans la bibliothèque, dans une tablette, ou en quelque part. Dieu veut pas qu'elle soit dans une tablette, il veut qu'elle soit dans notre cœur, pour qu'elle soit active, cette parole-là, et qu'elle soit vivante, pour qu'elle produise quelque chose de bon. Membre de l'Église. Parce que on peut être membre d'une caisse populaire, on peut être membre d'un club de skidoo, on peut être membre d'un club de Costco, mais être membre de l'Église, c'est au-delà de tout cela. Parce que quand on est membre d'un Costco, où ça nous rapporte quelque chose. Mais dans l'Église, ça nous rapporte quelque chose, mais on doit aussi donner de notre temps, de notre vie, de notre engagement, de notre consécration. Mais tout cela commence par croire la parole. Il y a un commencement, à quelque part. On ne devient pas membre d'une Église du jour au lendemain. Ça commence en quelque part. Quelqu'un nous a amené la parole. On a commencé à croire la parole. On a cru à un point qu'on a reconnu qu'on était un pécheur, qu'on a cru assez pour se repentir de nos péchés, qu'on a reconnu que Jésus est sauveur et que l'on s'est engagé à venir à l'Église puis que notre vie a commencé à se conformer. Et là, les gens qui sont en autorité dans l'Église, ceux qui sont anciens, celui qui est pasteur, reconnaissent que cette personne-là est qualifiée et a sa vie transformée par l'œuvre de Jésus. Et là, les gens du comité, les gens dans l'Église, disent à cette personne-là d'être un membre de l'Église, être un membre votant de l'Église, un membre participant. Parce qu'on peut venir à l'Église, juste recevoir, puis s'en aller. Mais c'est plus que ça, être membre d'une Église. C'est de venir à l'Église pour recevoir, mais c'est de venir aussi à l'Église pour participer à la vie de l'Église. C'est une famille, l'Église. On est membre d'une famille. On est membre de la famille de Dieu. On est membre de cette organisation-là, de la famille de Dieu. Et dans une famille, ce qui est beau, c'est qu'il y a du monde de tous les âges. J'ai vu tantôt, il y avait un petit bébé. Lui, il n'est pas encore membre. Il est dans l'Église. Il grandit, là. Il va se développer dans l'Église, ce petit bébé-là. Et il y a les personnes les plus âgées. Et dans tous ces âges-là, il y a des gens, dans toutes les catégories d'âge, qui font partie de l'Église et qui sont membres de l'Église et qui font une œuvre de participation dans cette Église-là. Qui sont membres? Les gens qui ont été reconnus comme étant des gens qui ont passé par le salut de Dieu. Et je vais lire un passage pour commencer dans Romains 12, 4 et 5. Je ne sais pas si je vais laisser mon collègue à l'arrière présenter les versets. Dans Romains 12, 4, il dit, « Car comme nous avons plusieurs membres dans le seul corps, et que tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » On a tous besoin les uns des autres dans le corps de Christ. Parce que on a tous des points forts, des points faibles. On a tous des choses à apporter à l'Église. On a tous des choses à apprendre de l'Église dans le contexte de la vie de l'Église. Et on doit vivre dans ce contexte-là où ce qu'on est en apprentissage de connaître, d'avancer, de se développer. Et les gens qui ont plus d'expérience peuvent apporter aux plus jeunes. Et parfois, les plus jeunes ont des choses à apporter aux plus âgés. Parce que Il n'y a pas d'âge pour être enseigné. Bien pauvre est celui qui a fini d'apprendre. On doit apprendre toute notre vie. La vie chrétienne, c'est une vie où on doit apprendre. Tantôt, il a été mention du pardon. On peut être rendu âgé puis pas avoir appris à pardonner. On peut être encore pris avec ce problème-là dans notre vie de pas avoir pardonné quelque chose qui nous est arrivé dans notre enfance. Dieu nous aime. Dieu nous manifeste son amour. Mais à travers une parole, le Seigneur nous dit que vous devez pardonner. Parce que lui nous a pardonné beaucoup plus que nous, on va pardonner à ces personnes-là qui ont pu nous faire quelque chose. Et ça, c'est un empêchement de grandir spirituellement. C'est un empêchement de se développer comme un membre de l'Église où on est actif. Parce que l'amertume, ça crée un problème. Ça crée un problème qui empêche le développement de la personne dans sa vie spirituelle. Et c'est une nécessité de pardonner. Dieu nous a pardonné un péché impardonnable, puis il nous a pardonné en mourant à la croix. Mais nous, on doit pardonner les petites choses que les gens ont pu nous faire. Puis bien des fois, on veut les retenir, on les garde, puis on les médite, puis on se ronge le sang avec ça. Puis Dieu veut qu'on les relâche pour recevoir le cadeau que Dieu veut nous donner. Ça, c'est d'apprendre à être un membre de l'Église, de fonctionner comme un membre de l'Église. Et chacun a quelque chose à apporter à l'autre. Parce que vous avez des points forts, vous avez appris des choses, vous avez des expériences, vous avez vécu des événements, des choses que vous avez vécues avec la présence de Dieu, vous pouvez le partager aux autres. Et les membres partagent ensemble des choses qui vont être une bénédiction. Parce que le pasteur, lui, peut vous enseigner des choses, il peut vous dire des choses de la parole de Dieu. Mais vous les vivez. Le pasteur les vit aussi. Mais vous les vivez, ces choses-là, au quotidien, dans votre vie de tous les jours. Puis c'est une nécessité de s'accrocher à la parole de Dieu et de voir les gens dans l'Église comme étant des frères, des sœurs, des gens qui vont nous aider. Pas les voir comme étant « Ah, ben lui, il m'en veut ». Des fois, il y a quelqu'un qui nous regarde ou qui ne nous a pas regardé, on pense qu'il nous en veut. Il ne nous a seulement pas vus. Il y avait l'idée ailleurs, puis il ne nous a pas vus. Puis on pense qu'il nous en veut parce qu'il ne nous a pas regardé. C'est pas vrai. Ça, c'est le diable qui vient jouer dans nos pensées puis nous faire créer des choses. Parce que l'amour que Dieu nous a manifesté se manifeste les uns avec les autres. Et c'est la bénédiction qu'on a à se communiquer les uns et les autres. L'Église n'est pas une organisation. C'est un organisme vivant. C'est un organisme vivant qui vit avec l'Esprit de Dieu, qui fonctionne avec la pensée de l'Esprit de Dieu, qui a une unité pour fonctionner et se développer. Et c'est ça la bénédiction, c'est d'avoir des frères et des sœurs. Dans une famille, on a des frères et des sœurs, puis on connaît qu'il y en a qui ont des habiletés, on connaît qu'il y en a d'autres qui ont des qualités sur des choses, puis chacun contribue à sa façon au développement du corps de Christ et à l'avancement de l'Église, et c'est une bénédiction, comme ce matin, ceux qui ont chanté, qui ont amené des très beaux chants, qui nous ont amenés dans l'adoration. Il y en a qui ont ces capacités-là, mais il y en a qui ne les ont pas. Mais que voulons, qu'est-ce qu'on veut? Ceux qui ont les habiletés vont le faire, puis Dieu, on va suivre dans leur adoration, puis on va donner les louanges à Dieu, même si on chante mal. On va juste chanter moins fort. Moi, c'est ce que j'ai appris quand j'allais à l'école. Moi, j'avais pas de voix, fait que les professeurs m'ont dit, « Suis en arrière de tout le monde, puis chante moins fort. » Parce que j'avais pas la capacité, j'ai pas le talent. Mais j'avais d'autres choses. Puis chacun d'entre vous, vous avez quelque chose que vous amenez à la contribution de l'Église. Votre pasteur m'a partagé qu'il a commencé à travailler 3 jours semaine. Mais vous êtes là pour l'appuyer dans la prière. C'est un choix qu'il a fait, mais pour la bénédiction de l'Église. Mais vous êtes là pour prier pour lui. Priez pour les uns, pour les autres, mais priez pour votre pasteur. Parce que Dieu l'a établi ici depuis plusieurs années, je ne sais pas combien d'années, on oublie vite le temps, mais c'est plus que 15 ans qu'il est ici à l'Église. C'est un choix qu'il a fait de retourner travailler avec l'accord du comité qu'il y a eu l'approbation. mais vous êtes des membres qui devez l'aider dans ses fonctions-là, dans tout ce qu'il est, lui, capable de faire, mais il va vous confier certaines choses qu'il sait que vous êtes capable, puis lui, ça va le libérer de certaines charges qu'il ne peut pas à cause d'un événement ou d'une situation de travail. Mais la bénédiction que vous lui apportez, c'est en étant quelqu'un qui va l'aider, un membre qui est actif, qui est aidant pour le pasteur, puis pour les anciens et pour le comité d'administration. Parce que l'Église, c'est ça, c'est de fonctionner ensemble pour la bénédiction de tous et surtout pour l'avancement de l'Église et la bénédiction des gens que Dieu veut rajouter à votre Église. Parce qu'il y a quelques chaises de vide, mais Dieu veut en rajouter dans cette Église-là. Dieu veut que vous amenez la parole à l'extérieur de l'Église. Et un des moyens que Dieu se sert, c'est de faut sortir de l'Église. Pas sortir pour abandonner l'Église, sortir pour aller publier le message de l'Évangile. Parce que les apôtres, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Parce que si on pense que les gens vont venir à l'Église si on ne fait rien vers l'extérieur, ils ne viendront pas. Mais ça, c'est les membres qui font ça. C'est les gens qui ont connu le Seigneur, c'est les gens qui font partie de l'Église, qui ont ce ministère-là, qui ont cette capacité-là de se développer pour aller vers l'extérieur, pour attirer ces gens-là qui ne connaissent pas le Seigneur, mais que Dieu veut amener au milieu de vous. Qui font partie du monde, mais qui vont devenir des chrétiens, qui vont devenir des gens qui ont accepté le Seigneur, qui sont nés de nouveau, que là, ils ont commencé à grandir et qui ont connu à un point d'être transformés dans leur vie. Parce que l'Église va reconnaître ceux qui ont vraiment fait une expérience, ceux qui ne l'ont pas vraiment fait. Mais il y a des gens qui n'ont pas fait d'expérience qui vont venir à l'Église et qui viennent à l'Église, mais sont à la bonne place pour entendre parler de Jésus et d'être sauvés. Il y a des gens qui vont venir pendant des années à l'Église parce qu'ils aiment ça, la musique, parce qu'ils aiment ça, les gens qui les aiment. Mais là, à un moment donné, il faut qu'ils fassent leur propre expérience. Il faut qu'ils le connaissent, lui, le Seigneur Jésus. Être membre de l'Église. L'Église, ce n'est pas une organisation, c'est un organisme vivant avec l'Esprit de Dieu qui fonctionne et qui fait qu'il y a un mouvement de l'Esprit qui se produit dans l'Église. On va aller dans Matthieu 28, 18 et à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus donnait ces paroles-là, il dit, « Tout pouvoir m'a été donné. » Dans le ciel et sur la terre. Mais il a délégué son pouvoir aussi à l'Église. Pour que l'Église reconnaisse les vrais enfants de Dieu. Et c'est pas toutes les églises qui portent le nom d'Église qui sont vraiment des églises. Parce que si le message n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce n'est pas une véritable Église. Pour avoir le titre, mais elle n'a pas le message qui va avec. Et Jésus dit, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Aujourd'hui, on voit que le pouvoir de Jésus n'est pas vraiment étendu sur toute la création dans le sens de sauver les âmes. Mais il a payé le prix pour toutes les âmes. Jésus a payé ce prix-là et tout pouvoir lui a été donné sur la terre. Parce qu'il a placé des autorités dans les églises, pour répandre ce message-là, pour annoncer ce message-là et reconnaître les vrais chrétiens, ceux qui sont vraiment nés de nouveau, les enseigner et faire d'eux des disciples et des gens transformés par la parole de Dieu. Ça, c'est le moyen que Dieu a choisi. Il a donné son pouvoir aussi au gouvernement pour régner sur les pays, pour amener une discipline, pour amener des règles, des fonctionnements. Prions pour nos gouvernements. Prions pour les gens qui sont en autorité. On voit un exemple dans la Bible avec Daniel. Il y avait un gouvernement de Nabucodonosor qui n'était pas conforme, puis il respectait pas les lois de Dieu. Et Daniel s'est levé, puis il a manifesté sa foi au-delà de ce que le roi voulait, puis il dit, puis il a vécu selon les principes de la parole de Dieu, mais à un moment donné, ce roi-là a reconnu que Dieu existait, qu'il servait le roi des rois, le Dieu du Créateur du ciel et de la terre. Je suis pas d'accord avec toutes les lois qui se passent, mais ces gens-là ont besoin qu'on prie pour eux, parce qu'on a un pays qui vit en paix, parce qu'on a un pays de bénédiction. Mais malheureusement, il y a trop de gens qui ne connaissent pas Jésus comme sauveur. Ils sont dans la bénédiction et ils oublient qu'il y a un Dieu dans les cieux. Ils oublient que Jésus a payé le prix. Et bien des fois, ils n'ont même pas entendu parler de Jésus qui est mort sur la croix, qui est venu sur cette terre. Ils ont un personnage, mais ils n'ont pas la connaissance de qui est Jésus personnellement. Et Jésus dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Son pouvoir s'est étendu et s'étend sur toute la terre, mais dans l'univers aussi. Parce que c'est lui qui est le Créateur, c'est lui qui est Dieu. Que les gens le reconnaissent ou qu'ils ne le reconnaissent pas, il demeure Dieu. Un jour, la Bible nous dit que tout genou fléchira devant lui. S'ils ne le reconnaissent pas aujourd'hui, un jour, ils n'auront pas le choix de le reconnaître, parce qu'un jour, ils vont être dans sa présence, soit qu'ils vont avoir l'éternité avec Dieu, ou soit qu'ils vont avoir l'éternité séparée de Dieu, en enfer. Et c'est une chose qui est nécessaire aujourd'hui de dire, parce que les gens ne croient plus à l'enfer. Il y en a qui ne croient plus à ça, mais on n'a pas le droit de changer le message de la Bible. Les gens ne veulent plus parler de l'enfer. Mais tous les gens qui ne connaissent pas Dieu, si leur destinée n'est pas détournée pour venir vers Jésus, sont destinés à être perdus pour l'éternité. Et nous, nous sommes les messagers. Vous êtes les messagers. Vous êtes les bouches et les yeux et les pattes pour annoncer le message que Jésus a annoncé pour tous ceux qui ne connaissent pas qui est Jésus comme sauveur personnel. On n'a peut-être pas tous le même degré d'habilité. Mais si on n'a pas l'habilité de parler, vous avez l'habilité de vivre la vie chrétienne. Et ça, bien des fois, les gens vont le voir, vont dire, qu'est-ce que tu as que j'ai pas? Comment ça que tu agis comme ça? Mais là, les portes s'ouvrent. Et Dieu permet que ces gens-là vont pouvoir parler de Jésus. Parce que Jésus veut faire des disciples. Un disciple, c'est un membre de l'Église qui est actif, qui est discipliné et qui est disciplinable. Parce que Jésus a donné des moyens de recours pour discipliner. Si quelqu'un ne vit pas conformément à ce que l'Église ou ce que la parole de Dieu dit, ben il va avoir une discipline qui va se faire. Un peu, je ramène encore cette pensée-là. La parole de connaissance est venue pour que la personne relâche le pardon. C'est une forme de discipline que l'Esprit de Dieu amène pour que la personne qui a retenu pendant des années quelque chose à ne pas pardonner, que la personne pardonne. Parce que Dieu veut libérer cette personne-là. Dieu aime tellement qu'il permet que quelqu'un vienne et dise une parole pour pouvoir que cette personne-là dise « c'est moi ». Personne ne sait. Personne ici sait qui que ça peut être. Mais l'Esprit de Dieu sait que cette personne-là a besoin dans son cœur de relâcher quelque chose envers une personne. Puis il va avoir la libération. Dieu amène une discipline. Pour. Oui, qui amène une situation pour que la personne pardonne. Et à travers ça, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Parce que personne ne sait si Dieu est discret dans ces choses. Mais quand que la discipline va plus loin, bien des fois, la personne doit être rencontrée par une personne pour amener une prise de conscience. Si la personne n'écoute pas, si on voit ça dans Matthieu aussi, la personne n'écoute pas, là, deux personnes vont l'avertir. La personne est encore au choix d'écouter. À un moment donné, Dieu amène la personne à vouloir écouter. Mais si elle n'écoute pas encore, la parole de Dieu nous dit, on va le lire, on va aller dans Matthieu 18. 18, verset 15. La parole nous dit, si ton frère a péché et va et reprends-le entre toi et lui seul, s'il écoute, tu as gagné ton frère. Si la personne est a une oreille docile, cette personne-là va lui dire quelque chose, puis là, la personne, oui, c'est vrai, j'ai mal agi. Je reconnais que j'ai péché. Ça s'arrête là. Bénédiction. La personne a reconnu. Mais s'il y a une occasion où la personne n'écoute pas, parce que le changement ne s'est pas fait, c'est visible. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi un ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Pourquoi deux ou trois témoins? Parce que la parole de Dieu veut que cette personne-là soit rencontrée par ces deux ou trois personnes-là, qu'eux aussi ont eu connaissance de ces choses-là, et que là, la parole de Dieu l'amène à prendre conscience pour vouloir amener ces changements-là dans sa vie, parce que c'est une bénédiction. Parce qu'il y a un danger de perdition si la personne n'écoute pas. Dieu aime tellement pour pas que la personne se perde. Ça, c'est de l'amour manifesté. Des fois, quand on est enfant, notre mère ou notre père nous promet qu'on va avoir une tape si on fait quelque chose de pas correct, on ne voit pas ça comme une bénédiction. Une tape, c'est pas une bénédiction. Mais nous autres, on ne voit pas plus loin. Notre parent sait que, je vais prendre un exemple. Si mettons, tu as volé un bonbon parce que tu es un enfant, puis tu as pris un bonbon, tu l'as volé, puis là, ta mère t'a dit, c'est pas correct, va voir le monsieur, puis dis-lui que tu as pris un bonbon. Je me sens plus petit, là. L'enfant, il est repris là, s'il est corrigé, il est correct. Mais s'il va plus loin, rendu à 7, 8, 10 ans, ben il refait la même chose. Ben la correction, ça va être plus que ça. Là. Parce que là, il est encore pris avec ça. Puis si il ne réussit pas à changer cette habitude-là, mais à un moment donné, ça va être la police qu'il va avoir. Parce qu'il va voler plus gros, là. Il va aller plus loin. Puis il va se ramasser devant les tribunaux. Il va se ramasser devant les juges. Puis la sanction va être plus grave. Et spirituellement, c'est la même chose. Dieu nous donne des étapes qui vont là. Parce qu'il y a, lui, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu qu'il a tout pouvoir. Mais parce qu'il a aussi de l'amour qu'il fait ça. Parce que Dieu ne corrige pas parce qu'il n'y a pas d'amour, il corrige parce qu'il y a de l'amour pour pas qu'on se perde, pour pas qu'on change de direction, pour qu'on continue à le suivre et à lui obéir. Et c'est ça que l'amour fait. Mais quand je reviens à l'exemple de l'enfant, l'enfant ne voit pas ça comme une bénédiction. S'il a changé de comportement, le plus vieux, il dit, ma mère avait raison de faire ça, mon père avait raison de faire ça, parce que j'aurais pu mal tourner. Puis mes parents m'ont empêché de mal tourner parce qu'ils ont amené une correction. Mais les enfants qui sont pas repris ou corrigés, ils virent mal, puis là, ils disent, « Oh, mon père, ma mère ne s'occupait pas de moi. » Parce qu'ils n'ont pas repris. Mais c'est une bénédiction d'être repris. Et Dieu, notre Père, agit comme ça parce qu'il veut nous amener une bénédiction, il veut nous amener à grandir. Et ça, c'est parce qu'on est membre de l'Église. Si on n'est pas membre de l'Église, c'est la cour qui va régler ce problème-là. C'est le juge qui va régler ce problème-là. C'est les autorités dans notre ville ou dans notre pays qui vont amener ces corrections-là. Mais ce ne sera pas un chrétien. Ça va juste parce qu'il est dans le monde. Il y a des autorités qui doivent être là. Et parce que c'est de même. Parce que Dieu a délégué son autorité. L'Église est là pour le côté spirituel et le monde est là aussi pour le bon fonctionnement d'une chose à suivre. Parce que qu'on soit chrétien ou pas chrétien, voler, c'est voler. La loi est la même pour tout le monde. Mal agir sur ce côté-là, c'est grave pour un chrétien, mais c'est grave pour les mères du monde. La loi demeure la même. Mais l'amour de Dieu est infini. On l'a chanté. Grâce infinie de notre Dieu. Et ça, ce chant-là, là, il a tourné. Il a été chanté. Et dernièrement, à l'église, on a eu un petit sketch sur celui qui a composé ce chant-là. C'était quelqu'un qui avait cherché des esclaves en Afrique, dans les années là, très loin, 1879, je pense que le chant a été composé, ou en tout cas, je peux me tromper d'une date. Puis Puis lui, il était en s'en aller pour aller avoir ramassé des esclaves à ce moment-là. Puis il y a eu une tempête. Puis il a demandé à Dieu, il dit, si tu me sauves, si tu me sauves de la noyade, il dit, je vais te servir. Cet homme-là, Dieu l'a permis qu'il soit épargné de cette noyade-là à ce moment-là. Et il a, dans les années après, il a composé ce chant-là. Et là, c'est lui qui a travaillé pour libérer les esclaves, enlever la loi de l'esclavage, pour que on soit plus, ces gens-là soient plus esclaves. Et grâce infinie, c'est que nous, on est esclaves du péché. On était esclaves du péché. Puis on peut tomber encore dans le péché. Mais c'est la grâce infinie de Dieu qui nous permet de vivre hors de ces conditions-là, parce que cette grâce-là nous libère du péché. On ne mérite pas. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, nous pardonne et nous libère du péché pour qu'on puisse vivre pleinement pour lui. Et ce chant-là qui a été chanté, c'est un chant qui a été chanté des milliers et des milliers et des millions de fois au cours du temps. Et il est encore d'actualité. Parce que ça prend la grâce infinie de Dieu pour nous transformer, nous changer. Ça, c'est le pouvoir que Dieu a dans nos vies. Pour nous changer, nous transformer. Pour qu'on soit des membres de l'Église. Membres de la famille de Dieu. Membres du corps de Christ qui s'est acquis par le prix de son sang versé à la croix du calvaire. Le salut est gratuit, mais ça a coûté un prix gigantesque à Jésus-Christ pour qu'on ait ce salut-là, cette grâce-là. Dans Matthieu 16, 19, Jésus dit une parole à Pierre et dit, dans Matthieu 16, 19, 18, Matthieu 16, 18 et 19, là, il dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est Dieu qui ajoute à l'église les gens qui sont sauvés. Jésus dit, « Moi, je te dis que tu es Pierre. » Parce que Pierre était choisi pour annoncer le message, pour être le leader de l'Église lorsque Jésus partirait. Mais Jésus est la pierre angulaire. Et c'est lui qui ajoute à l'Église les gens qui se convertissent, qui deviennent des membres de l'Église, qui sont participants du corps de Christ, qui répandent le message de l'Évangile partout. C'est lui qui les ajoute. Mais l'Église les reconnaît. L'Église les reconnaît, ces personnes-là. Parce qu'à un moment donné, tu vois quelqu'un rentrer à l'Église. Tu dis pas lui. Dieu sauve les gens qu'on veut pas avoir des fois. Parce que, bien des fois, ceux qui sont trop belle apparence, les gens-là veulent pas de Dieu. Et les gens que nous, on rejetterait, Dieu les choisit pour faire des membres de l'Église, mais nous, il faut qu'on les accepte. Nous, il faut qu'on les accueille. Il faut qu'on les entoure. Il faut qu'on les amène à être des disciples de Jésus-Christ, à être des gens transformés par la parole de Dieu, en les exhortant, en les enseignant, en les édifiant selon la parole de Dieu. Et la parole les transforme par l'intérieur. C'est là que le commencement se fait, à l'intérieur. Pourquoi que dans notre société, les psychologues réussissent pas à changer tous les gens? Parce qu'ils vont par l'extérieur, des choses extérieures. Tu sais, il faut que tu transformes la personne, il faut que tu la changes extérieurement. Mais Dieu, lui, commence par l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça. Vous avez un vieux cruchon qui est sale, qui est avec toutes sortes de choses dedans. Vous rentrez un tuyau dedans, puis là, vous faites couler de l'eau. Puis là, elle coule, puis elle coule, puis elle coule. Pas cool. À un moment donné, l'eau est propre. Tout ce qu'il y avait de cochonnerie dedans sorti, puis l'eau devient propre. Puis c'est ça. Dieu, dans sa puissance, il déverse sa parole dans nos cœurs, il déverse son amour. Parce que c'est par son amour, premièrement, que la transformation commence. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Dieu d'amour a décidé de partir du ciel pour venir sur la terre. Ça n'a pas réussi avec les prophètes, ça n'a pas marché avec Moïse, ça n'a pas marché avec ces gens-là. Il dit, je vais envoyer mon Fils. Puis, il va lui démontrer cet amour-là. Puis, ils vont reconnaître. Mais les gens l'ont crucifié. Mais il n'a pas arrêté son amour. Il a continué à aimer les gens. Il a continué à nous aimer, même si on n'était pas aimable. Parce que je n'étais pas aimable, vous ne me connaissiez pas avant. Mais aujourd'hui, c'est parce que Dieu a fait une œuvre. Et tout ce qui est bon en moi, ce n'est pas moi, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est la grâce de Dieu. C'est son amour déversé. C'est sa bénédiction. Et je reviens. Mais moi, je vous dis que je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'enfer ne peut pas arrêter l'Église de Dieu. Le diable ne peut pas arrêter l'Église de Dieu. Parce que depuis la croix, aller jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue de sauver des gens et continue à ajouter à son Église. Les gens disent, le monde ne croit plus aujourd'hui. Oui, il y en a qui ne croient pas, mais il y en a d'autres qui sont croyants encore aujourd'hui puis qui viennent à la connaissance de Jésus. Ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu. Qui aurait pensé qu'un des deux larrons sur la croix, il y en a un qui se repentirait? Mais il y a juste un récit dans la Bible, c'est Luc qui le rapporte. Les trois autres évangiles ne parlent pas de ce gars-là. Mais lui a rapporté que cet homme-là s'est repenti. Et ça doit passer par la repentance. Et la repentance, ce n'est pas seulement quand on est venu au Seigneur. On doit penser parfois à d'autres moments où on doit se repentir. On doit se repentir pour avoir eu des mauvais comportements ou des mauvaises actions parce que on reconnaît qu'on a des manquements, qu'on est encore avec des problèmes, qu'il y a des péchés dans nos vies. On est des gens sauvés par grâce, mais qui ont des besoins de transformation encore dans notre vie. Puis les vrais chrétiens se voient parce qu'ils se repentent. Ils se repentent encore après des années d'avoir vécu avec le Seigneur, puis on manque, on se repent, on demande pardon au Seigneur, puis on continue. Je vais dire comme notre pasteur Gabriel a dit, « Tomber, c'est humain, se relever, c'est divin, puis pas se le relever, c'est sans dessein. » Parce que si on reste par terre dans notre péché, c'est sans dessein. Parce que Dieu veut nous amener à aller plus loin. Un enfant qui tombe, il se relève, puis continue. Pourquoi qu'on marche aujourd'hui? Parce qu'on a tombé, on s'est relevé, puis on a continué à marcher. Avec Dieu, c'est la même chose. On peut tomber, on peut se relever parce que Dieu est là pour nous aider, puis on peut continuer à marcher avec Dieu. C'est une bénédiction. Je l'ai trouvée vraiment bonne, celle-là. Je l'ai même écrite. Parce que c'est la vérité simple de l'Évangile. On peut tomber, mais avec Dieu, on se relève, puis si on ne relève pas, c'est sans dessein. Parce qu'on a besoin de faire l'effort de se lever et de faire ce que Dieu veut qu'on fasse, parce que c'est une bénédiction. Et on va aller dans Éphésiens, Éphésiens 2. Excusez, Éphésiens 1, verset 20. Éphésiens 1, verset 20. Parce que le Dieu qu'on l'on sert est infiniment bon, infiniment grand. Et nous, on ne peut pas saisir toute la grandeur et la portée de son œuvre. Il dit, « Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et ça, c'est l'autorité, la puissance, au-dessus de tout ce qui peut être nommé. Notre Dieu est grand. Les gens ne le reconnaissent pas. Bien des gens disent, il y a un Dieu, une force, mais nous, on connaît qu'un Jésus qui est Dieu, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et parce qu'il est le chemin, parce qu'il est la vérité, parce qu'il est la vie, j'ai décidé de le suivre. Et vous avez, vous aussi, chacun d'entre vous, décidé de le suivre. Parce que vous avez, je sais pas de toutes vos orientations avant, mais bien des fois, les gens, « Ah, il y a un Dieu, une puissance, une force dans la nature. » Mais à l'arrière de ça, il y a un Dieu créateur qui s'appelle Jésus, qui est Dieu, qui est mon Dieu à moi. Puis chacun de vous pouvez dire, il est mon Dieu à moi. Jésus est mon sauveur. Et toutes les autorités, toutes les puissances, toutes les dominations, toutes les choses de dignité, nommez-les, Jésus est au-dessus de ça. Il est la tête de l'Église. Et comme j'ai dit tantôt, pas n'importe quelle Église. L'Église qui annonce le véritable message de l'Évangile. Parce que malheureusement, il y a des gens qui se servent de la Bible, mais pas dans la bonne façon. Pas pour rapporter les bonnes choses, pas pour faire les bonnes choses. Mais la priorité du message de l'Évangile, c'est que les gens soient sauvés. Parce que qu'est-ce qui fait que vous êtes citoyen canadien? Qu'est-ce qui fait que vous êtes citoyen canadien? C'est parce que vous êtes né au Canada. Qu'est-ce qui fait que vous êtes citoyen des cieux? C'est parce que vous êtes né de nouveau en Jésus-Christ. Ce n'est pas un évangile dur à comprendre, mais il faut passer par là. Vous pouvez être pendant des années à venir à l'Église, mais si vous n'avez pas fait cette expérience-là, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Pas moi qui le dis. La parole de Dieu dit ça. Puis là, ça prend une naissance. Et cette naissance-là, c'est Dieu qui la donne. Ça vient pas d'une religion. Ça vient pas d'une organisation. Ça vient pas de quelqu'un qui vous dit « t'es sauvé ». Ça vient que Dieu a révélé cette chose-là dans vos cœurs. Et c'est là que la tête du corps, qui est Jésus-Christ, agit pour ajouter à son Église des gens qui sont sauvés. Parce que moi, j'ai été sauvé en dehors de l'Église. J'étais dans un camp de bûcherons. L'Esprit de Dieu me visitait là. Chacun de vous qui avez cette nouvelle naissance-là, vous avez une expérience où que Dieu vous a touché, où que Dieu a agi dans votre vie, où que Dieu est venu vous visiter et que votre vie a commencé à changer. Chacun d'entre vous qui a fait cette expérience-là. Et c'est ce qui fait que vous êtes des membres de l'Église de Jésus-Christ, membres de l'Église. Mais tous les membres ont des responsabilités. Parce que on a des privilèges, mais on a des responsabilités comme membres d'une Église. Parce qu'on peut venir à l'Église, puis juste venir à l'Église pour sortir. Mais quand on est né de nouveau, la responsabilité, c'est qu'on, premièrement, on s'est converti. Après ça, pour obéir à la parole de Dieu, on s'est fait baptiser. Parce qu'on doit passer par le baptême. C'est un engagement, c'est une reconnaissance que la parole de Dieu nous demande de passer par le baptême. Et des fois, il y a des gens qui, ça fait des années qu'ils viennent à l'Église, qui ne sont pas baptisés. Il faut passer par cette étape-là. Parce que l'Église reconnaît que cette personne-là est née de nouveau, ben faut que tu passes par le baptême. Et des gens vont dire, non, moi, je ne veux pas. Tu vas te faire mouiller, mais c'est juste ça. Tu vas sortir tes trempes. Puis tu vas avoir fait ce que la parole de Dieu dit. Ça demande de l'obéissance. Dieu accorde son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Ça prend de l'obéissance dans la vie chrétienne. Si on n'obéit pas, on peut pas être appelé chrétien. On peut pas être appelé un véritable enfant de Dieu. Il y a des gens qui vont dire, moi, je suis un enfant de Dieu. Je crois en Dieu. Il n'y a pas d'obéissance. Il n'y a pas d'obéissance à la parole de Dieu. C'est pas un enfant de Dieu. Il n'est pas né de nouveau. C'est une obéissance à la parole de Dieu. Ensuite, la mission de l'Église. On rentre dans la mission de l'Église. Tous ceux qui sont vraiment nés de nouveau, ils veulent le partager à d'autres. Parce que c'est tellement bon que je ne peux pas garder ça pour moi tout seul. C'est tellement merveilleux. Je veux le dire à quelqu'un. Si quelqu'un gagne 500 000 à la loterie, allez-vous être gêné de passer à la télévision ou ben non passer sur Facebook? J'ai gagné 500 000, dites-le pas pour ça. Hein? Vous allez être content d'avoir gagné. Mais quand vous avez gagné ou que vous avez eu la vie éternelle, vous êtes content de le partager à quelqu'un d'autre. Vous êtes content de dire à cette personne-là, Jésus m'a changé. La personne que tu vois là aujourd'hui, là, c'est parce que Jésus est venu faire son œuvre dans ma vie parce que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Puis je ne serais pas où je suis là aujourd'hui. C'est la grâce et la bonté de Dieu. L'assiduité. Mais c'est quoi ça, ce mot-là? Ça fait quoi ça, assiduité? Fidélité. Personne qui vient à l'Église, qui est fidèle à venir à l'Église. Ça, c'est un membre. Il est fidèle à se présenter à l'Église. S'il ne vient pas, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Il est malade. Il a parti en voyage pour une raison. Bien des fois, moi, chaque fois que je vais en quelque part, comme ce matin, j'ai averti mon pasteur, j'ai dit, je suis parti prêcher à Sainte-Terre. Il dit, ça donne bien. Il dit, moi, je m'en vais à Amos. Puis il y a quelqu'un d'autre qui prêche à la salle. Mais je voulais que mon pasteur soit au courant. Mettez votre pasteur au courant s'il y a des raisons pourquoi vous ne pouvez pas être là. Il s'inquiétera pas de vous, il va savoir. C'est pas parce qu'il a abandonné. C'est pas parce qu'il veut plus venir à l'église. C'est pas parce qu'il était frustré. C'est pas parce qu'il a entendu des choses. Il a décidé de pas venir ce matin-là parce qu'il était parti en voyage à Montréal. Il est allé d'une autre église. C'est normal. Il est en voyage. La participation. Participer. C'est quoi vos talents? Qu'est-ce que vous avez comme talent? Moi, je vous connais pas personnellement. J'ai vu, il y avait des gens qui avaient des talents au piano, chanter, jouer du drum. Si un matin, ils disent, « Oh, ça me tente plus, moi. » Tu ne dis pas à personne. Elle dit, « Qu'est-ce qui se passe? » Il n'a pas dit, « Viens pas. » Notre pasteur, il faut être au courant. Il compte sur vous. Il compte sur vous. Un matin, j'ai eu un téléphone. Ben là, il n'y aura pas de réunion, il n'y a pas d'eau. Ah, il dit, pas de problème, on va aller à Amos. Là, il me rappelle, peut-être 15 minutes plus tard. Il dit, on va avoir une réunion. On revient d'abord, on y va. Tu sais, on aurait tout manqué ça un matin. Tout ce beau monde-là qui sont là un matin. Dieu avait quelque chose pour vous. Pas parce que c'est moi qui parle. Pas parce que c'est moi qui apporte la parole. C'est parce qu'à travers la parole que Dieu veut vous transmettre, il veut vous amener un message que vous vous engagiez encore. La dernière fois, je vous ai parlé de finances. Aujourd'hui, je vous parle d'autres choses. Parce que Dieu veut vous amener plus loin. Votre pasteur vous dit des choses. Parce qu'il vous aime. Ça vient de la parole. Il veut vous amener plus loin. Il veut vous amener toujours plus loin. Puis Dieu veut nous amener plus loin. Prière. Dieu veut qu'on mette du temps dans la prière pour notre Église. Pour les gens, les uns et les autres. Pour les gens qui ont des besoins. Ça fait partie d'un membre aussi de l'Église. La prière. Parce que c'est une nécessité de prendre du temps avec Dieu. Du temps dans sa parole aussi. À lire sa parole. Lire des passages qui vont nous donner quelque chose de nourriture pour pouvoir pratiquer quelque chose puis être nourri continuellement de la parole de Dieu. Pas juste le dimanche. Dimanche, c'est une portion spéciale, mais toute la semaine. Et le problème aujourd'hui, c'est la vitesse. La vitesse. On est tout le temps trop pressé. Mais y a-t-il quelqu'un qui a plus que 24 heures dans une journée ici? On est tous limités à la même chose, 24 heures. Il faut juste savoir mettre des temps pour arrêter. Il y en a, ça va être le matin. Il y en a, ça va être le midi. Il y en a d'autres, ça va être le soir. Il y en a d'autres, ça va être dans la nuit. Peu importe où ce que c'est, pourvu que vous mettez du temps avec Dieu, pourvu que vous vous arrêtez, commencez par un 15 minutes. Commencez par un petit temps. Dis-moi, il faut faire une heure. Bien, commence par plus petit. Vous savez, moi, c'est comme je dirais, je voudrais courir un marathon demain matin. Oubliez ça, je suis mort à 2 km. Hein? On va commencer par peut-être 500 mètres, 1 km. Après ça, je vais me former à ça, je vais m'habituer, m'améliorer, je me nourrir peut-être mieux, manger moins de chips, boire moins de liqueur, je m'améliorer, puis je me conditionner. Spirituellement, c'est la même chose. Vivre dans la sainteté. On est saint à cause que Jésus nous a lavé de nos péchés. Mais il faut faire de quoi aussi? Si on a des choses qui ne sont pas correctes dans nos vies, on a à mettre des choses de côté. On a à mettre des choses de côté. On va prendre un exemple que personne ne devrait avoir, la pornographie. Personne ne devrait avoir ça. Mais si tu as un problème avec ça, faut que tu t'enlèves ça de ta vie. Faut que tu t'arranges pour ne pas être dans des conditions dangereuses. Faut que tu te places loin de ça. J'entendais le témoignage à un moment donné de quelqu'un. Lui, il avait des tendances à voler après qu'il était converti. Il savait qu'il y avait un problème sur ce côté-là. Puis lui, il avait tendance à se promener sur le bord du trottoir pour regarder dans les chars ce qu'il y avait qu'il pourrait ramasser. Mais là, il s'est mis à se promener plus loin. Plus loin que les chars. Pour pas avoir la tentation. C'est pas grand-chose, hein? Mais ça y a aidé. Des fois, c'est pas grand-chose. Il faut changer de comportement, changer des petites choses, puis ça va nous amener à vivre plus dans la sainteté. Pas des affaires extraordinaires, des choses bien normales de la vie, mais des choses qui vont nous amener à mettre notre vie en règle avec Dieu toujours plus. Puis amener des changements, parce que des fois, on devient religieux. C'est quoi ça? On fait la routine. C'est ça, toujours ça, toujours ça. Il faut être capable de changer. Ce qui nuit aux pharisiens, c'est que Jésus ne faisait pas les choses comme eux autres voulaient qu'il fasse. Ça, c'était les pharisiens. Jésus ne se lavait pas les mains. Hey, c'était grave. Il ne se lavait pas les mains avant de manger. Eux autres, dans leur religion, il fallait qu'ils se lavent les mains. Jésus a fait un miracle le jour du sabbat. Hey, c'était grave. Ils n'ont pas regardé au miracle. Ils ont regardé la journée qu'il ne fallait pas qu'ils fassent. Ça, c'est d'être religieux. Il faut faire attention. Dieu veut nous casser dans cette pensée religieuse-là. Tu sais, bien des fois, on va accuser les autres qui sont religieux. Mais comme chrétiens, on peut être nous-mêmes religieux puis faire attention pour ne pas tomber dans ce problème-là. Parce que c'est un problème d'être religieux. On a toujours fait ça comme ça, puis il faut falloir le faire comme ça, sans ça, je ne viens plus à l'Église. C'est qui l'Esprit de Dieu? Si l'Esprit de Dieu amène des changements dans l'Église, il faut être capable de les accepter. Il faut être capable de dire, Seigneur, mon pasteur, il doit être assez intelligent, puis il doit être assez conduit par l'Esprit, puis je vais lui faire confiance qu'il va amener des changements, puis ça va être pour le mieux. Puis l'Église va avancer. Puis l'Église va ajouter des gens. Puis l'Église va amener qu'il va y avoir des choses nouvelles. Vous allez dire, hey, qu'est-ce qui va se passer un matin? On va venir à l'Église. Hey, ça va être bon. Il va y avoir des choses nouvelles qui vont se passer. Mais non, si on dit, ah, moi, à telle heure, il faut que ça soit fini la prédication. À telle heure, il faut qu'il y ait chanté. À telle heure, il faut qu'il y ait passé pour les offrandes. À telle heure, il faut qu'il y ait fait ça, sinon je ne vois plus. C'est pas demain, ça marche. Dieu est capable de faire des changements. Hein? La preuve, Dieu permet que la terre fasse une rotation pour que les journées soient plus longues, l'été, puis l'hiver plus court. Puis en plus, il permet qu'elle tourne un peu pour que le soleil se déplace. pour qu'on ne soit pas toujours à la même place. Hey, Dieu a pensé à ça. Il aurait pu dire, ça va rester de même tout le temps. Non, Dieu permet qu'il y ait des changements. Dieu n'est pas un Dieu de routine. Il ne fait pas deux miracles pareils. Puis il n'en veut pas deux pareils d'entre vous. Vous êtes chacun unique devant Dieu. Puis Dieu veut se servir de vous avec vos capacités, vos qualités, vos talents, vos attitudes, vos aptitudes. Et ça, c'est d'avoir des responsabilités et de s'engager à vraiment marcher selon ce que Dieu veut. D'être des gens responsables, des membres de l'Église. C'est ça, être membre d'une Église. C'est d'avoir ces choses-là dans nos vies et beaucoup plus. D'avoir les fruits de l'Esprit. D'avoir de l'amour les uns pour les autres. S'il y a quelqu'un que vous aimez moins, vous avez peut-être besoin de prier plus pour lui pour que Dieu vous aide à l'aimer plus. Parce que Dieu l'aime, il a payé le même prix pour tout le monde. Il n'a pas dit, lui, il ne vaut pas trop cher, puis l'autre vaut plus cher. Tout le même prix. Ça a tout pris le sang de Jésus pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous libérer et de continuer à nous libérer aujourd'hui. Parce qu'on doit faire que l'œuvre de Dieu continue à progresser dans nos cœurs. Dieu nous aime. Il ne faut jamais oublier que Dieu nous aime. Les gens accusent Dieu, là, il y a des inondations, il arrive toutes sortes d'affaires, là. Puis là, ils mettent ça sur le dos de Dieu. C'est parce qu'ils ne connaissent rien. Seigneur, pardonne-leur. Parce qu'ils ne comprennent pas que ce n'est pas toi qui as envoyé ça. Tu sais, la maladie ou ces choses-là, ce n'est pas Dieu qui a envoyé ça. Mais là, qu'est-ce que le bon Dieu a fait? Puis les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu accusent Dieu à tort et à travers de toutes sortes de choses. Mais vous, vous êtes des chrétiens, vous voulez dire, c'est parce que tu ne comprends pas. Ce n'est pas Dieu. C'est la conséquence du péché qui est dans le monde, qui fait qu'il y a tant de malheur aujourd'hui. Puis, il n'y a pas grand monde dans cette société qui peut l'expliquer à part les chrétiens. Parce que on est les seuls, en tant qu'enfants de Dieu, qui connaît notre Dieu, qui connaît Jésus, qui connaît le Sauveur qu'on connaît, puis on connaît son amour, puis on ne l'a pas expérimenté dans toute sa connaissance, mais on sait qu'il est assez amour que ce n'est pas lui qui a envoyé tous ces malheurs-là. Il nous aime. Il veut qu'on le partage aux autres, ça. C'est pas Dieu, là. Toi, de ça. Ou toi, ça dans l'idée. Pas Dieu qui fait ça. Il y a des conséquences au péché. Puis il y a des conséquences à tout ce que c'est que l'homme fait. Toute la pollution qu'il amène sur la terre. Toutes ces choses-là amènent des conséquences du réchauffement de la planète. Il y a un paquet de choses qui créent ces choses-là. Puis bien des fois, c'est difficile de saisir ça. Jusqu'à un moment donné où on médite sur ces choses-là, on médite sur Dieu, on médite sur sa parole. C'est comme à un moment donné, quelqu'un disait, Dieu était dur dans l'Ancien Testament. Il y avait des guerres partout, il y avait des choses terribles qui se passaient. Mais le Dieu de l'Ancien Testament, c'était le même Dieu que le Nouveau Testament. Mais parce qu'il y avait un régime de loi, puis il y avait un péché, des péchés abominables qui étaient là, où ce que des gens faisaient des atrocités terribles, où ce qu'il y avait des jugements qui venaient. Mais Dieu était le même amour, avait le même amour. Il préparait son plan pour amener Jésus-Christ. Parce que la race humaine était tellement dure, le cœur de l'homme était tellement dur qu'il devait amener les choses progressivement pour préparer le terrain pour amener son fils. Puis même en amenant son fils, les gens ne le reconnaissaient pas. C'était pas n'importe qui, c'était Jésus. Les pharisiens ne voyaient pas clair. Les gens ne voyaient pas clair. Puis nous autres aussi, des fois, on ne voit pas clair. Seigneur, pardonne-nous parce que des fois, on ne voit pas ton œuvre. On ne voit pas ta grâce. On ne voit pas ton amour. On ne voit pas ce que tu fais. Seigneur, viens à notre secours. C'est là qu'on a besoin de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu qui vienne à notre secours. Parce que, pas parce qu'on est chrétien qu'on a tout compris, là. Pas parce qu'on est pasteur qu'on sait tout. C'est pas parce qu'on a des connaissances dans la parole qu'on a tout fini d'apprendre. On a toujours à apprendre. On a toujours à vivre des choses que Dieu va nous apprendre, des choses qu'on va grandir. Puis c'est en étant membre d'une église, en venant assister à des réunions, en entendant la parole de Dieu, en vivant dans l'église, en vivant toutes sortes de situations les uns avec les autres, que Dieu va nous faire grandir comme membre de l'église. Je vais aller à un dernier verset en terminant dans Hébreux 10, 25. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. N'abandonnons pas notre assemblée parce qu'on voit approcher le jour. Parce que si on abandonne, on n'est plus dans la condition pour recevoir de Dieu. On n'est plus dans la condition d'être là, disponible, à être à l'écoute de Dieu. Puis, malheureusement, ceux qui devraient entendre ça, c'est ceux qui ne sont pas là. Mais vous autres, vous pouvez leur dire, « Seigneur, je ne veux pas que tu abandonnes ton assemblée. » Ceux que vous connaissez qui ne viennent plus à l'église, pas leur taper sa tête, mais leur démontrer de l'amour que Dieu veut qu'ils reviennent. Dieu t'aime encore, pas parce que tu as abandonné pour un temps que Dieu a abandonné de t'aimer. Il t'aime encore, puis il veut te revenir. C'est difficile pour quelqu'un qui a abandonné l'église pour un certain temps, puis abandonner le Seigneur, de revenir. C'est honteux de rentrer dans une église. Puis là, je pense que les gens, des fois, les gens, ils se font des cartoons, des histoires. Ils se pètent des cartoons, comme il y en a qui disent. Puis là, les gens m'en veulent, les gens ne seront pas contents. Quand vous voyez quelqu'un arriver, vous êtes tellement content de voir qu'il revient au Seigneur. Les gens se font des histoires inutiles. N'abandonnons pas. Puis ceux qui ont abandonné, c'est eux que vous devez essayer de contacter, d'être des gens qui vont rassembler, qui vont les ramener. Parce qu'il y a un grand privilège de ramener quelqu'un qui a abandonné puis qui va revenir. Vous avez sauvé quelqu'un de la perdition. Pas vous, Seigneur, mais à travers vous, il a œuvré. On va se lever maintenant. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin de prière, vous pouvez vous avancer, je vais demander à Paul de venir avec moi pour prier. Mais s'il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il est ici, mais qui a besoin de Jésus, on peut prier ensemble. Mais vous pouvez prier seul aussi, parce que Dieu veut vous toucher. Dieu veut que vous fassiez cette expérience-là avec lui. Moi, je ne vous connais pas personnellement dans chacun d'entre vous. Mais Dieu veut vous toucher et que vous vous repentiez, que vous reveniez à lui ou que vous le serviez encore plus. Père éternel, on veut te bénir, ô Dieu, parce que ta parole est la vérité. Ta parole est puissante, parce que tu as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Mais ô Dieu, ça prend notre volonté qui cède devant la tienne pour pouvoir être sauvé. Reconnaître que tu es sauveur, que tu es Seigneur, que tu es le roi des rois, que tu es le Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, on te remercie parce que ta parole est la vérité. Ta parole nous enseigne des choses que nous devons vivre. Seigneur, viens nous aider à les mettre en pratique parce que nous avons tous les jours un défi de mettre ta parole en pratique pour que nous soyons des membres de ton Église, que nous soyons tes enfants, comme on a chanté, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes tes enfants, Seigneur, et c'est un grand privilège. Et on te remercie, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais dans le cœur de chaque personne ici, par la puissance du nom de Jésus. Oui, Seigneur, merci d'œuvrer et d'agir dans chaque personne pour que la transformation et aller plus loin avec toi s'engage encore dans les jours qui viennent pour la gloire du nom de Jésus. Amen.